êtes bien à l'écoute de Radio France Internationale, 1h à Paris et Kinshasa, minuit en temps universel.
Paul Lancin-Spinelli.
L'inquiétude grandit en République démocratique du Congo à propos de la situation dans l'est du pays. Félix Tshisekedi, le président congolais, parle ce mercredi soir d'une aggravation sécuritaire sans précédent. Il s'exprimait à la télévision nationale. Le M23, soutenu par le Rwanda, contrôle une grande partie de Goma, la capitale provinciale du Nord Kivu. Un nouveau chapitre dans le renouvellement politique en Syrie. Meneur de la rébellion anti-Assad en décembre dernier, Ahmed Al-Shara a été nommé président de la transition ce mercredi. Le Parlement et l'ancien parti au pouvoir, Baas, ont été dissous. Aux États-Unis, Donald Trump veut créer un centre d'accueil pour 30 000 migrants à Guantanamo, base sur laquelle est construite la plus célèbre prison américaine pour détenus inculpés pour terrorisme. Le durcissement de la politique migratoire, au cœur aussi d'une alliance fracassante entre la droite conservatrice et l'extrême droite allemande. Et puis en football, ça passe pour le Paris Saint-Germain, le Real Madrid et Manchester City, tous les trois qualifiés en barrage de la Ligue des Champions. Une aggravation sans précédent de la situation sécuritaire dans l'est de la République démocratique du Congo. C'est la formule employée ce mercredi soir par Félix Tshisekedi, le président congolais qui s'exprimait à la télévision nationale ce mercredi soir alors que les tirs avaient cessé dans l'après-midi à Goma. Goma, capitale provinciale du Nord Kivu, presque entièrement contrôlée par le M23 soutenu par l'armée rwandaise. Félix Tshisekedi qui a annoncé qu'une riposte vigoureuse avait été lancée. Il dénonce en revanche la passivité de la communauté internationale et a mis en garde contre une escalade régionale. On écoute Félix Tshisekedi.
Nous privilégions la voie du dialogue, mais toujours avec lucidité, tout en restant fermement résolus à défendre notre territoire et notre souveraineté par tous les moyens nécessaires. Mais ce combat n'est pas seulement celui des FRDC. C'est le combat de tout un peuple, le combat de notre identité congolaise, afin de léguer aux générations futures un pays prospère et en paix. À tous nos compatriotes, dans chaque province, chaque ville, chaque territoire et chaque village, ainsi que ceux de la diaspora, sans distinction d'appartenance ethnique ou politique, unissons nos efforts. Apportons un soutien indéfectible, moral et matériel à nos vaillants soldats. Mobilisons-nous comme un seul homme, pour défendre notre souveraineté et sauvegarder notre intégrité territoriale.
Félix Tshisekedi est désormais la menace d'une nouvelle offensive du M23 vers le sud Kivu et crainte par les autorités congolaises. Le gouverneur de la province a renforcé ce mercredi la sécurité dans la capitale Bukavu et interdit toute navigation sur le lac Kivu. Les cendres du régime Assad déblayées placent désormais au nouveau visage politique de la Syrie. Les nouvelles autorités ont dissous le Parlement ce mercredi soir. La constitution datant de 2012 a également été gelé. Et puis surtout, c'est la confirmation du statut du nouvel homme fort du pays. Ahmed Al-Shara a été nommé président de la transition à Eike Schmidt.
De facto, il dirigeait la Syrie déjà depuis la chute de Bachar al-Assad. Mais désormais, Ahmed Al-Shara est nommé président de la République pour une période de transition dont on ne sait pas encore combien de temps elle va durer. L'ex-islamiste radical issu de l'État islamique en Irak, mais connu surtout pour avoir renversé le dictateur Assad le 8 décembre dernier, sera chargé de former un conseil législatif provisoire le temps de rédiger une nouvelle constitution. Les nouvelles autorités semblent déterminées à faire table rase. Tous les groupes armés qui avaient mené l'offensive contre l'ancien régime seront dissous. C'est la fin également pour l'armée officielle ainsi que pour le parti Baas qui a gouverné la Syrie d'une main de fer pendant plus de 60 ans. Toutes les agences de sécurité qui ont sémé la terreur parmi la population sont elles aussi dissoutes. Ces mesures ont été annoncées à l'issue d'une rencontre entre Ahmed Al-Shara avec plusieurs chefs de factions armées, mais difficile de savoir ce soir si le nouveau président aura leur soutien plein et entier.
Explication signée Heike Schmidt. Au Proche-Orient, toujours, Donald Trump enregistre un revers diplomatique. Sa proposition de déplacer les Palestiniens de Gaza en Jordanie et en Égypte a été balayée par les deux pays ce mercredi. Abdallah II, le roi jordanien, a rappelé l'importance d'une solution à deux États. Le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi a, lui, qualifié l'idée du dirigeant américain d'injustice à laquelle nous ne prendrons pas part. Donald Trump, qui par ailleurs continue d'étayer sa politique anti-immigration aux États-Unis. Le président américain a annoncé ce mercredi la signature d'un décret pour préparer un centre d'accueil pour 30 000 migrants à Guantanamo. Ce centre pénitentiaire avait été ouvert en 2002 par l'administration du président George Bush après les attentats du 11 septembre 2001. Et alors que les législatives se déroulent dans un mois en Allemagne, les patrons se liguent contre Olaf Scholz. Les milieux économiques allemands sont très inquiets. 140 organisations dénoncent la politique du gouvernement du chancelier actuel. Il faut dire que la croissance de l'Allemagne est en berne. Les prévisions pour cette année ont récemment été rabotées de plus 1,1% à 0,3%. Alors ce mercredi, les représentants du patronat sont donc même descendus dans la rue dans différentes villes allemandes, devant la porte de Brandebourg à Berlin, un millier de personnes étaient réunies. C'est un reportage signé Pascal Thibault.
Les souliers vernis et les manteaux chics sont nombreux. Les manifestants réunis au pied de la porte de Brandebourg ne ressemblent pas à ceux qu'on y voit d'ordinaire. Ils arborent des pancartes frappées d'un gyrophare orange pour cette journée d'action dans différentes villes allemandes baptisées SOS. Les orateurs le répètent presque tous, ce n'est pas tous les jours que les milieux économiques descendent dans la rue. Comprenez, l'heure est grave, comme le souligne la présidente de la Fédération des entreprises familiales, Marie-Christine Ostermann.
Il y a urgence dans tous les domaines. Toutes les données économiques sont dans le rouge. Notre pays est en récession depuis 2 ans. Tous les autres pays industrialisés enregistrent une croissance. Cela prouve que cette situation lamentable a été provoquée par la mauvaise politique économique de notre pays.
Les 140 organisations qui appellent à manifester réclament un tournant économique avec une énergie moins chère, moins d'impôts et de cotisations sociales, un soutien aux investissements et moins de bureaucratie. Le ministre de l'économie, le vert Robert Habeck, est la bête noire des manifestants. Les organisateurs affichent leur neutralité, mais les politiques présents sont des chrétiens démocrates et des libéraux. Pascal Thibault, Berlin RFI.
En Allemagne, l'autre sujet sur lequel s'activent les détracteurs du chancelier Olaf Scholz, c'est l'immigration. À ce propos, un accord droite-extrême droite inédit depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale a été conclu ce mercredi. La CDU et l'AFD se sont entendus sur une motion non contraignante mais très symbolique pour demander le renforcement de cette politique anti-immigration. Le chancelier a réagi en évoquant un mauvais signe pour notre pays. Fin de citation. Et puis c'est un ennemi invisible mais qui met à rude épreuve la santé des Français. Les particules fines causent chaque année 40 000 décès en France. La pollution atmosphérique qui est aussi à l'origine de plusieurs dizaines de milliers de cas de maladies respiratoires, cardiovasculaires ou encore de diabète. C'est le résultat d'une étude récente de Santé publique France menée sur les particules fines et sur le dioxyde d'azote. Valérie Cohen.
Les scientifiques ont étudié l'impact de la pollution de l'air sur le développement de 8 maladies de différents types. Respiratoires d'abord. Ainsi, l'exposition aux particules fines, émises par le chauffage au bois et le trafic routier notamment, provoquerait chez les moins de 18 ans 40 000 nouveaux cas d'asthme. Cela représente 20% de la totalité des nouveaux cas annuels. Mais ce polluant est aussi en cause dans la survenue d'autres pathologies. Le docteur Sylvia Medina coordonne le programme Air et Santé à l'Agence Santé publique France.
C'est des particules qui pénètrent très profondément dans les voies respiratoires, qui peuvent traverser les parois alvéolaires et qui vont dans la circulation sanguine. Et c'est pour cela que, au-delà de l'appareil respiratoire, ces particules fines peuvent aller dans les différents organes, donc que ce soit au niveau cardiovasculaire ou neurologique, ou elles peuvent affecter des maladies métaboliques comme le diabète.
Ainsi, selon l'étude, l'exposition aux particules fines causerait plus de 14 000 cas de diabète de type 2 chez l'adulte et près de 80 000 cas d'hypertension artérielle. Les experts insistent, réduire les concentrations de particules fines et de dioxyde d'azote au niveau recommandé par l'Organisation mondiale de la Santé aurait un impact positif majeur. Une très grande partie des dizaines de milliers de cas de maladies liées à la pollution de l'air serait évitée.
Valérie Cohen. Et puis en football, ils font toujours partie des favoris pour le titre en Ligue des Champions, mais ils ont dû batailler jusqu'à ce mercredi pour se qualifier lors de cette dernière journée de cette première phase de la compétition. Manchester City s'est sorti du piège Bruges, victoire 3-1. Paris a surclassé Stuttgart 4-1, tenu en échec par l'Atalanta Bergame 2-2. Barcelone conserve quand même sa deuxième place, les Catalans qui passent directement en 8e, tout comme Liverpool, Arsenal, l'Inter Milan, l'Atlético Madrid, Lille, Leverkusen et Aston Villa. C'est la fin de ce journal sur RFI, 1h10 à Paris, minuit 10 temps universel.